France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il n'y a aucun modèle économique qui pourra remplacer l'or blanc. C'est une activité qui a été très lucrative et aujourd'hui, il ne va pas y avoir un modèle type pour remplacer le ski alpin.
On commence à saisonner de plus en plus tôt sur les compétitions, alors que finalement, les hivers arrivent de plus en plus tard. Donc il y a quelque chose en fait, qui n'est plus forcément logique et donc je pense qu'en fait, il faut qu'on ressente la nature au cœur de nos décisions.
En tant que montagnard et vivant à l'année dans les Alpes, j'espère qu'on fera hyper attention à cette partie écologique.
Le drapeau olympique a été symboliquement remis à la France dimanche par l'organisation des JO de Milan-Cortina. Les Alpes françaises se préparent à accueillir la prochaine édition des Jeux d'hiver en 2030. Le biathlon au Grand Bornand, le bobsleigh à La Plagne, le snowboard à Serre-Chevalier. Ce seront des Jeux spectaculaires, promettent déjà les organisateurs, profondément ancrés dans les territoires et guidés par une forte exigence de responsabilité environnementale. Mais les JO d'hiver 2026 ont montré les limites de la promesse d'un olympisme durable, l'éclatement des sites a multiplié les déplacements, augmentant fortement l'empreinte carbone. La construction d'équipements énergivores et le recours massif à la neige artificielle ont aussi pesé sur les ressources et les écosystèmes alpins. Un constat qui pose forcément la question de notre capacité à faire mieux dans 4 ans. Or, le changement climatique est un sujet majeur pour les Alpes. C'est la région qui se réchauffe le plus en France. Elle a perdu en 50 ans un mois d'enneigement. Après plusieurs décennies d'un modèle économique largement bâti autour du ski, l'or blanc est voué à disparaître. Les stations de haute altitude ont encore un peu de temps pour voir venir. Elles profitent même aujourd'hui d'un afflux de clientèle. Les prix s'envolent et les constructions se poursuivent. Mais cela ne durera pas indéfiniment. À l'horizon 2050, a averti la Cour des comptes dans un rapport alarmiste, toutes les stations de ski seront plus ou moins touchées. Les Alpes anticipent la fin de l'or blanc. C'est un reportage signé Azaïs Perrona. Bonjour Azaïs.
Bonjour Aurélie.
Les JO d'hiver se sont refermés en Italie avec cette question en suspens. Comment est-ce que nous allons gérer, nous en France, ces enjeux environnementaux dans les Alpes françaises en 2030? C'est le point de départ de votre reportage.
Oui, et pour ça, je suis allée à la rencontre des premiers concernés par ces Jeux. Les athlètes qui sont parfois tiraillés entre une pratique qu'ils adorent, victime du changement climatique, mais qui contribue aussi à son accélération. Je suis allée voir les acteurs des territoires de montagne, ceux qui ont profité et profitent encore de l'or blanc, mais qui se demandent jusqu'à quand et anticipent. J'ai rencontré des personnalités lucides, engagées, enthousiastes, des responsables de domaines skiables, de clubs, d'offices de tourisme, qui se posent des questions mais n'ont pas encore les réponses sur l'après, sur comment est-ce qu'on continue à faire vivre économiquement ces territoires quand le ski aura, du moins en partie, disparu. Alors pour en revenir à ces Jeux que nous accueillerons en 2030, parmi les interlocuteurs, beaucoup espèrent qu'ils seront un moyen d'imaginer la montagne de demain plutôt que de l'enfermer dans un modèle du passé.
Nous sommes en duplex avec ici Pays de Savoie à Chambéry où se trouve notre invité. Bonjour Maëlle Besson.
Bonjour.
Vous êtes expert en transition écologique du sport, fondateur de l'agence Sport 1.5 qui accompagne des acteurs nationaux et internationaux dans l'adaptation au changement climatique. Je vous laisse d'abord écouter le reportage d'Azaïs avant de vous retrouver. Nous partons tout de suite pour Chamonix, en Haute-Savoie.
Et c'est parti. Donc j'arrive sur mon tapis de biathlon. Je vais insérer mon chargeur. Voilà, c'est inséré. Et là, je vais me mettre en position en debout pour essayer de faire un 5 sur 5.
Au pied du Mont Blanc, à Chamonix, le biathlète Axel Garnier s'exerce au tir.
Première balle tirée, elle est mise.
Cet hiver, il ne participe pas aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, mais espère bien être retenu pour les suivants, en 2030, dans les Alpes françaises où il a grandi.
Moi, je suis originaire de Sallanches, donc c'est un tout petit peu plus bas dans la vallée. Donc j'ai commencé le ski de fond à 6 ans et le biathlon à 15 ans parce qu'avant on ne peut pas avoir d'armes à feu, donc c'est pour ça qu'on commence un peu plus tard. Et je fais du haut niveau depuis l'âge de mes 16 ans. Voilà. Donc moi je m'entraîne sur les sites de Megève, les Contamines ou Sallanches depuis tout petit. Et là, par exemple, on est à Chamonix. Quand j'étais petit, en plein janvier, il y avait plein de neige, toutes les pistes étaient ouvertes, etc. Et là, il n'y a que la moitié de la station qui est ouverte parce qu'il y a un manque de neige. On sent que c'est de plus en plus difficile de faire du ski. Et surtout sur les stations de moyenne altitude comme ici, on est à 1100 mètres, je crois. Même on ressent au niveau des courses que les organisateurs, ils ont de plus en plus de mal. De base, pour faire un sprint en biathlon, c'est une course de 10 km. On doit avoir une piste de 3,3 km. Et la dernière course que j'ai faite en sprint, en fait, ça a été sur une piste de 2,5 km. Et on était obligé de faire plus de tours du coup sur cette piste de 2,5 km. On sent que tout le monde essaye de s'adapter et c'est de plus en plus difficile de skier, tout simplement, de faire notre sport, quoi.
Alors, comment est-ce qu'on conjugue ça et comment est-ce qu'on se projette dans cette discipline en sachant qu'elle évolue rapidement?
Tout simplement, on essaye donc de faire des compétitions sur des sites où on sait qu'il y a plus de neige, donc plus en altitude, ou si on a la chance de voyager un peu plus dans les pays scandinaves, où là, ils n'ont pas de soucis avec la neige pour l'instant. Et encore, ça commence à arriver. Et aussi, il y a la pratique du coup en été du ski à roulettes. Mais aussi, maintenant, ça va, je pense, arriver en hiver où les compétitions, elles vont de plus en plus se faire en ski à roulettes. Et je pense que la partie de notre sport hivernal va être toujours la partie reine. Mais je pense que la saison va être écourtée ou va être quelque chose d'un peu plus compliqué à faire, mais c'est aussi de la beauté de notre sport d'être dans un environnement naturel, sur des skis, au milieu des bois, donc on essaie de garder ça, quoi.
Alors quand on a 23 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Et qu'on a les Jeux Olympiques dans les Alpes dans 4 ans, quel regard est-ce qu'on porte dessus ?
Moi ça me fait rêver, parce que voilà, c'est à la maison, c'est sur un site que je connais, ça sera au Grand Bornand. Et puis il y aura toute la famille, les amis qui seront là pour nous voir. Après, pour moi, c'est mon objectif de carrière. Et donc après, je pense que pour 2030, ça va être vraiment l'enjeu de donner une bonne image à la France et aussi du coup de nos sports d'hiver et du nordique. Mais c'est vrai que pour plus tard, pour d'autres JO, je pense que ça serait peut-être un peu plus facile de le faire dans les pays scandinaves ou les pays qui ont plus de neige de base. Donc voilà.
Les grands événements comme les Jeux Olympiques ont une empreinte carbone, bien sûr, qui est assez considérable. Et ça a forcément un impact sur la pratique après des disciplines elles-mêmes. Est-ce que ça, c'est difficile à intégrer et à vivre en tant qu'athlète, à la fois amoureux de la nature et en même temps de la compétition ?
Ouais, ça c'est très difficile à gérer, c'est un peu le paradoxe qu'on a. Je pense que nous les sportifs, on est très attachés à notre milieu montagnard, à la nature, mais aussi à cause du sport de haut niveau, on est ceux qui émettent le plus de CO2 dans l'air, donc notre empreinte carbone elle est très élevée. Donc c'est pour ça, les JO c'est un peu un paradoxe parce qu'on en rêve, mais aussi on sait que ça a un gros impact carbone, mais je pense qu'on l'a vu avec les JO de Paris. Ils ont fait des gros efforts là-dessus et ça a montré l'exemple pour les JO qui sont à venir. Donc on verra si ça marche, mais je pense qu'on est dans le bon sens en tout cas.
Parmi les personnalités qui ont œuvré à l'héritage environnemental des Jeux de Paris 2024, il y a Romain Riboud. Double médaillé d'argent aux Jeux paralympiques d'hiver en 2002, il est désormais responsable des enjeux environnementaux et sociaux à la Fédération française de ski. C'est dans ses locaux, à Annecy, qu'il s'interroge et s'emploie à faire évoluer son sport vers une pratique plus alignée avec les limites planétaires.
Paris 2024 a fait la preuve qu'avec moins de carbone, on arrive à faire des jeux qui soient au moins aussi beaux, voire plus réussis que les éditions précédentes. J'espère que ce sera la même chose pour Alpes 2030. Il y a certaines choses qui font que le terrain est déjà un peu plus favorable que les éditions précédentes. Le fait d'avoir déjà une bonne partie des infrastructures qui sont existantes, ça c'est la première chose. Et par contre, effectivement, ça n'empêche pas qu'il va falloir que on se pose les vraies questions de comment les jeux peuvent être un petit peu le laboratoire de la montagne de demain. Comment ils peuvent être le laboratoire des stations dans lesquelles il y aura potentiellement un petit peu moins de neige, dans lesquelles le modèle sera encore basé sur du ski, mais avec peut-être plus de flexibilité. Ça proposait du ski quand il y a de la neige, d'autres activités quand il n'y en a pas. Là, on parle juste de la partie un petit peu émergée de l'iceberg, mais si on passe en dessous, c'est aussi bah, après toutes les questions de modèle économique, de métier, de ceux qui vivent dans les territoires de montagne, d'ailleurs de la façon même de vivre la montagne. Ça, c'est tous des sujets sur lesquels je sais que le COJOP y travaille, mais sur lesquels, en fait, si on est très clair, on n'a pas le droit de se louper.
Là, on a une deuxième grande salle de réunion ici. Voilà, on a fait le tour. Donc ouais, bah là, il y avait le logo des 100 ans, puisque du coup la fédération elle a eu 100 ans en octobre 2024, juste après que je suis arrivé.
D'accord, donc 1924.
Tout à fait.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous investir au sein de la fédération sur ces questions-là ?
Bah moi, le ski, donc du coup, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Je suis très content de pouvoir, on va dire, rendre à mon sport et à ma passion ce que j'ai pu du coup développer comme compétence et comme, je pense modestement quand même, comme expertise sur ces sujets de transition. Parce que voilà, c'est une discipline, quand on en discute justement avec des experts, c'est une des disciplines pour lesquelles la survie même de la discipline, elle est questionnée à très long terme. Peut-être que les choses se passeront bien, mais en tout cas, c'est des questions qui se posent. Donc pour moi, c'était logique de pouvoir voilà, travailler sur ma passion dans un job qui aujourd'hui me passionne aussi.
Vous, votre vision de l'avenir du ski, quelle est-elle ?
Ma vision de l'avenir du ski, elle est assez simple. Je pense que le ski, quoi que certains en disent, a encore quelques belles années ou quelques belles décennies devant lui, mais il ne peut pas faire l'économie de faire sa transition. Comme tous les autres secteurs d'activité, le ski a un impact, que ce soit un impact carbone, un impact sur la biodiversité, sur les ressources. Et donc, du coup, on se doit d'être dans cette dynamique collective et même de l'impulser, on va dire, encore plus fortement que d'autres sports qui ne sont pas directement liés à cet environnement naturel. Donc, voilà, on a de belles années devant nous en termes de pratique, je pense. Alors, forcément, avec des altitudes qui vont monter, on ne va pas se mentir. Mais voilà, on doit faire cette transition et moi, je suis persuadé qu'on peut arriver à avoir du ski qui soit aussi vertueux.
Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement opérer cette transition du ski ?
Donc en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se poser la question d'un côté, comment on peut réduire notre impact. Donc du coup, là, on est en train de faire notre bilan carbone et on s'est fixé, on a pris la même trajectoire que la Fédération internationale de biathlon, de réduire de 5% par an pendant 3 ans comme pilote. Ça, c'est la première chose, de comment on peut minimiser notre empreinte. Là, je parlais du carbone, mais ça peut être sur le matériel, sur la biodiversité. Et la deuxième chose, c'est comment on s'adapte au réchauffement climatique. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire adapter nos pratiques d'entraînement, que ce soit pour la filière de haut niveau, se poser la question de où est-ce qu'on skie actuellement, où est-ce qu'on va skier demain pour nos entraînements de ceux qui sont dans la filière de compétition. Et aussi, ce qui est très vrai, c'est pour nos clubs, et les clubs et notamment ceux qui ont une pratique loisir. Il y a plus de 50% de nos licenciés qui font du loisir. On a beaucoup de clubs qui sont dans des stations de basse et moyenne altitude. Eux, comment on les accompagne à l'aune du réchauffement climatique pour justement repenser leur activité, maintenir une activité de ski, favoriser aussi la multi-activité pour leurs licenciés, enfin de quand même de garantir aussi ce qui est l'essence d'une fédération, c'est-à-dire aussi maintenir un lien social, essayer de faire en sorte que des jeunes apprennent les valeurs du sport, etc. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc, c'est là-dessus qu'on a agi, donc sur à la fois la réduction et l'adaptation.
En quittant Annecy pour prendre de l'altitude vers les grandes stations alpines, la route serpente jusqu'à Méribel. Perchée à 1450 mètres, la station s'étend au cœur du domaine des Trois-Vallées, l'un des plus vastes espaces skiables au monde. Ici, la saison d'hiver bat son plein et le club des sports en est l'un des moteurs avec plus de 500 licenciés.
Alors ça, c'est un athlète qu'on a au club des sports qui a fait médaille de bronze aux Jeux 2022. Là, c'est Richard Jouve. Je viens juste de l'encadrer, son de Savoyer depuis 2022.
Donc bonjour, je suis Thierry Carreau, je suis le directeur du club des sports de Méribel.
Vous êtes originaire d'ici ?
Oui, complètement. Oui. Oui, je suis né ici, et je vis ici.
Quelles sont les différentes disciplines de sport d'hiver qu'on trouve ici ?
Donc nous, on propose toutes les disciplines de glisse. Donc ça part du snowboard au ski de fond, au biathlon, au ski alpin, télémarque. On a toutes les disciplines qui sont proposées au club. On organise en lien avec justement les sections et les différentes disciplines des événements. Ça permet aussi à nos jeunes de participer en local. et de pouvoir aussi montrer les disciplines à l'ensemble de nos clients qui viennent tout au long de l'hiver.
Et le rapport à ces disciplines, est-ce que lui aussi, par rapport au réchauffement climatique, est-ce qu'il évolue? Comment est-ce que ça se passe?
Alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'avec du recul, on s'adapte dans la pratique. Donc quand il y a un petit peu moins de neige, que les conditions sont moins bonnes, eh ben, les jeunes, les licenciés vont faire d'autres activités. On a su s'adapter à ce niveau-là. Après, on s'adapte aussi par rapport au calendrier des courses. Quand on demande des courses, on essaye de voir un petit peu qu'on ait de la neige. Ça évite de faire une surproduction de neige, de tomber dans quelque chose qui n'est pas spécialement bon. Et on arrive toujours à pouvoir organiser nos courses sans aucun problème. On a rarement annulé de compétition sur les années précédentes.
Mais dans le discours et dans la projection, est-ce que vous sentez une évolution sur comment on parle de l'avenir des disciplines?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il va falloir faire quelque chose. On a la chance de pouvoir aussi jouer avec l'altitude et de pouvoir faire des entraînements, non, des compétitions à des niveaux plus élevés, parce qu'on a un grand domaine et on peut le faire. On est obligé de s'adapter. Peut-être qu'il faudra aussi se dire à un moment, on fait moins de neige pour descendre à 1400 mètres et puis les fronts de neige, ils démarrent à 2000.
Les fronts de neige, c'est là où partent les pistes.
Oui, tout à fait. Les fronts de neige, donc, c'est là où partent l'ensemble des remontées mécaniques. Et puis on accédera toujours avec des remontées mécaniques, mais on descendra peut-être plus en ski et on utilisera peut-être les remontées pour redescendre à l'image de, d'un train ou d'un métro qu'on peut prendre pour aller faire une activité. Ça peut être la même chose. Il ne faudra peut-être pas vouloir spécialement se forcer à dire toute l'année, on descend à 1400 mètres. Mais quand c'est bon, quand il y a des bonnes conditions, on descend à 1400 mètres. Puis quand c'est moins bon, le front de neige, il est à 2000 mètres.
Ici, vous avez déjà organisé des événements importants, comme les mondiaux en 2023. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous avez pris en compte ces enjeux environnementaux?
Alors aujourd'hui, par rapport aux mondiaux, on a eu la chance d'avoir de la neige en début de saison, qui a été tout de suite travaillée. Donc dès qu'on a eu les conditions qui étaient bonnes et qu'on a pu rendre une piste de niveau international, on s'est arrêté là. Donc il n'y a pas eu de surplus, de choses qui ont été faites en plus. Ça, c'est un premier point. Il fallait vraiment faire attention à ça. Et à côté de ça, nous, on a mis en place, après tout ce qui était une charte un petit peu écologique, où on a fait attention au fonctionnement, au flux, à comment les gens arrivaient sur le site, comment les gens repartaient. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le tri, sur la gestion de tout ce qui était acheté au niveau des produits. Essayer de rester au maximum en Made in France.
Et vous n'aviez pas une marge de manœuvre non plus si importante?
Ah non, la marge de manœuvre aujourd'hui, on ne l'a pas. De toute façon, on doit rendre des pistes qui sont des standards FIS internationales. On ne peut pas se dire on va faire 20 cm de neige et on va pouvoir faire un slalom sur une piste comme ça. Non, il y a des critères bien précis. Nous, on essaye, parce que tout ça, ça a aussi un coût qui est pris par les sociétés de remontée mécanique. Donc on essaye de minimiser au maximum cette production de neige et c'est d'optimiser au maximum aussi. Aujourd'hui, il y a des outils de damage qui existent sur les machines avec des appareils qui permettent de voir la hauteur de neige qu'il y a à tel ou tel endroit. Ce qui permet de ne pas avoir une surproduction à un endroit et pas du tout de neige ailleurs. Donc ça, c'est vraiment optimisé par rapport aux sociétés de remontée mécanique et de damage. Et ça, c'est un point qui est hyper, hyper important aujourd'hui.
Est-ce que ce retour d'expérience, vous pensez, sera utile pour les Jeux de 2030 dans les Alpes françaises?
Ouais, je le souhaite. En tant que montagnard et vivant à l'année à Méribel et dans les Alpes, j'espère qu'on fera hyper attention à cette partie écologique.
Merci infiniment, Fina, pour cet exposé brillant de grande qualité.
Mais dans les Alpes françaises, la perspective d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 ne fait pas l'unanimité. Fiona Mill, à la tête de Mountain Wilderness France, une association de protection de la montagne, compte parmi les voix critiques. Selon elle, les Jeux Olympiques d'hiver qui viennent de s'achever en Italie illustrent le décalage persistant entre la promesse d'un événement responsable et la réalité environnementale sur le terrain.
Je rappelle que Fiona ses livres sont à la vente.
Depuis plusieurs mois, Fiona Mill sillonne les villes des Alpes pour présenter son livre intitulé « Réinventons la montagne ».
Bonsoir. Ma question concernait savoir si votre association avait pris contact avec les Italiens sur le projet Milan-Cortina pour faire un retour d'expérience qui s'est malheureusement passé pour l'aménagement de ces Jeux Olympiques d'hiver pour le mois prochain.
Oui, oui, ben en fait, il existe Montagne d'Ornas en Italie, donc on échange avec eux. Et très concrètement, à Cortina,
il y a 60% des projets qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation environnementale. Donc on n'est pas du tout dans les jeux les plus sobres et durables de l'histoire. C'est pas vrai. C'est potentiellement moins pire que Sochi et Pékin, c'est-à-dire des jeux organisés dans des pays autoritaires. Mais c'est pas des jeux qui sont pensés pour permettre la transition des territoires de montagne de demain. Au contraire, ils continuent de les enfermer dans un silo.
Ce soir, il y avait du monde dans la salle. Qu'est-ce que ça nous raconte de l'intérêt des habitants des territoires par rapport aux Jeux Olympiques ?
Oui, il y avait du monde. On était une centaine de personnes, je pense, ce soir à Bonneville, donc à proximité de la Clusaz et du Grand Bornand, donc quand même au cœur des territoires des Jeux. Je pense que ça montre clairement le besoin d'ouvrir le débat, l'intérêt des populations à discuter de ces Jeux, à mieux comprendre les impacts et aussi à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Et moi, je l'ai ressenti depuis le lancement du livre. Depuis octobre 2024, j'ai fait presque 70 rencontres dans les territoires de montagne. À chaque fois, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'interrogations, il y a un vif intérêt sur comment on va vivre demain en montagne et est-ce que ces Jeux, c'est un accélérateur de la transition ou un frein, et généralement les personnes se disent plutôt que c'est un frein.
Quel type d'événement alors est-ce qu'on pourrait imaginer demain dans les territoires de montagne de façon sobre? Qu'est-ce qui partagerait ces différents événements?
Moi, je pense que demain, on peut bien évidemment continuer à organiser des événements sportifs en montagne. D'ailleurs, pas que des sports d'hiver. La montagne, elle se pratique à l'année et je pense qu'on voit l'essor du trail ou du VTT. Après, l'enjeu, c'est de concilier une pratique récréative, une pratique sportive avec des enjeux de préservation. Et du coup, je pense que le sport pourrait être un vecteur pour sensibiliser et prendre conscience que la montagne, c'est un territoire magnifique, mais aussi fragile et qu'il faut en prendre soin. Et ça nécessite de repenser en fait les racines des événements sportifs, c'est remettre en cause peut-être le sport business où la montagne n'est qu'un décor.
Il faudrait sortir alors aussi dans ce cas des sports qui dépendent uniquement de l'enneigement et peut-être aller vers une diversification des pratiques à la montagne.
Oui, en tout cas, uniquement d'une montagne de plus en plus aménagée. L'enneigement, quand il était là, c'était formidable de faire de la glisse. Quand il n'est pas là, aller faire de la piste de neige à canon, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'y trouve pas beaucoup de sens. Et j'ai envie de dire, c'est pareil dans d'autres épreuves où on cherche de plus en plus à adapter la montagne pour continuer à faire nos pratiques et pas à s'adapter à elle. Or, le propre des activités de montagne, c'est que ce sont des activités d'outdoor. L'outdoor, c'est qu'on s'adapte au milieu dans lequel on évolue. On s'adapte à la pente, on s'adapte au climat, on s'adapte à la météorologie. Et pour moi, c'est ça qui fait le sens de ces pratiques. Et je trouve qu'on est un peu en train de dénaturer tout l'esprit de l'outdoor aujourd'hui.
Qu'est-ce qui, d'après vous, n'est pas dit ou n'est pas assumé dans le débat public, justement, sur l'avenir de ces sports d'hiver ?
Ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas assumé, c'est qu'il n'y a aucun modèle économique qui pourra remplacer l'or blanc. C'est une activité qui a été très lucrative pour certains territoires, qui a aussi été très largement soutenue par de l'argent public. Et aujourd'hui, il ne va pas y avoir un modèle type pour remplacer le ski alpin. Il va falloir faire preuve de créativité et puis aussi penser territoire par territoire, c'est-à-dire qu'on ne pratiquera pas les mêmes activités sportives potentiellement dans les stations, dans les mêmes territoires. On n'aura pas non plus les mêmes modèles économiques. Et ça, on n'en parle pas assez. Et du coup, on retarde toujours le problème en disant « finalement, aujourd'hui, les sports d'hiver, ça permet encore de vivre ». Donc on essaye de gratter quelques années jusqu'au moment où, et c'est déjà le cas dans plein de territoires de moyenne montagne, économiquement, ça craque, climatiquement, ça craque, et on n'a pas pensé la suite.
Après plusieurs décennies d'un modèle économique largement bâti autour du ski, très lucratif, l'or blanc semble aujourd'hui se tarir. Louis-Marie Vivant, consultant pour l'agence de conseil AIRCOP, accompagne les collectivités dans la réduction de leur dépendance au ski et dans la diversification de leurs activités. Parmi elles, le Grand Bornand, qui doit accueillir des épreuves des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 et avec qui il a travaillé plusieurs années.
Je vais dire des belles phrases, mais comme elles sont belles, il ne faut pas s'empêcher de les dire, c'est qu'on peut considérer que pour beaucoup de territoires de montagne, le tourisme n'est plus devenu un moyen, mais un but. Normalement, le tourisme, c'est une activité économique, comme une stratégie économique qui permet d'atteindre un modèle social. Au final, maintenant, ça a été tellement bien l'or blanc, c'était tellement fantastique, et c'est tellement bien l'or blanc, et c'est tellement fantastique, qu'on veut être touristique, et que c'est un but, ça devient un but. C'est-à-dire, on veut être une station de ski. Le ski n'est plus un moyen, c'est un but en soi. Et c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on va investir dans perpétuer un modèle, parce que le modèle en lui-même est notre ambition, et plus le moyen. Je vais me faire taper... Mais j'assume. Moi, je pense qu'aujourd'hui, clairement, le ski et l'économie touristique liée au ski a été un boom fantastique pour nos territoires. On transformait, transcendait nos vallées, peut-être un peu trop. Les stations, il y en a encore qui fêtent leurs 70 ans, leurs 60 ans. C'est pas excessivement vieux quand même comme économie. C'est-à-dire que mes parents ont connu ça. Mes grands-parents n'ont pas connu, ont connu les territoires sans les stations. Et j'ai connu mes grands-parents pour dire que voilà, c'est quand même une échelle assez courte. Donc ça a transcendé nos territoires. Ça a apporté énormément de joie, énormément de, voilà, énormément de tout ça. Et on devient rapidement dépendant à ça. Sauf qu'aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce qu'on est capable d'alimenter cette dynamique ? Et on sait très bien que non. Mais est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui d'identifier d'autres stratégies économiques qui vont venir compléter le ski, donc diminuer notre dépendance aux produits ski, et venir stabiliser et pérenniser un modèle socio-économique pérenne pour le territoire ? Ça, c'est la grande question. C'était même pas la grande question. Ça reste la grande question parce que tous les territoires supports de stations de ski adoreraient qu'on leur apporte ça. Après, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que certains se posent la question. Peut-être plus qu'on ne le pense. On le voit pas trop parce que c'est des questions qu'on n'aime pas trop poser parce que ça remet en question quand même un peu le ski. Remettre en question le ski, c'est pas très très bien vu. Pourtant, et je finirai là-dessus, mais je finirai pas, je peux parler des heures, mais pourtant, il y a quand même plein d'élus qui sont forts, qui sont conscients, qui adorent leur territoire et qui aujourd'hui se disent « Ok, on doit tenter des choses ». C'est ça que moi que je voudrais aussi repréciser et ça je le porterai vraiment avec acharnement parce que j'ai eu la chance de travailler et j'ai la chance de travailler avec des élus qui sont incroyables. Il y en a plein, sûrement c'est des gros méchants, mais il y en a plein, c'est des gens fantastiques qui sont passionnés par leur territoire, qui veulent absolument trouver des moyens, mais sauf que des fois ça fait un peu peur. Parce qu'effectivement, on s'est conforté dans quelque chose qui fonctionnait vachement bien, qui était très enthousiasmant et onirique. Le ski, ça fait rêver, et encore une fois, moi le premier. Et imaginons, pas qu'on arrête, mais qu'on change, et ben, ce pas dans l'inconnu et ce retour pour certains en arrière fait peur. Et il y en a qui arrivent à l'incarner quand même, à le porter en disant, bah ouais, mais on va essayer d'y aller quand même. Et ça, je trouve que c'est génial. Et potentiellement, Alpes 2030 devrait soutenir et porter, quand on parle de transition, c'est aussi ça, c'est accepter d'éclairer un peu les ténèbres. Et il y a des futurs qui font peur. Moi, je pense que les territoires de montagne sont géniaux. Voilà, on est nombreux à être venus habiter dans ces territoires-là. Pourquoi ? Parce qu'ils incarnent quelque chose. Donc il faut qu'on s'appuie là-dessus, sur cette capacité à faire rêver, cette capacité à réunir, cette capacité à avancer. Et chiche.
Imaginer la montagne de demain et ses attraits est au cœur des préoccupations du Grand Bornand et de sa directrice de l'Office de tourisme, Isabelle Pochat-Cotillou. Elle vient de terminer sa journée et nous accueille dans ses bureaux.
Bonsoir.
Ah, vous avez le monde depuis Chamonix, du coup.
Ouais.
Bah... On va descendre un petit après.
Oui.
Bien.
Qu'est-ce qu'on voit là par la fenêtre ?
Eh bien, au cœur de ce beau village qu'est le Grand Bornand. Alors, je dis beau village parce que d'abord, c'est mon village natal. C'est là où j'ai grandi, donc forcément un attachement très fort. Eh bien, on est en fin de journée ici, après une belle journée. Belle journée avec une condition de neige qui était exceptionnelle, une météo, une tempête de ciel bleu. Et puis là, on voit les restaurants qui s'animent, les commerces qui tendent à fermer, l'illumination encore de Noël, et puis cette belle ambiance d'un village de montagne.
Alors justement, quelle était la montagne hier et quelle sera la montagne de demain ?
Alors, peut-être que le Grand Bornand a pas fondamentalement changé de direction. En fait, il y a un point qui est déjà important sur le Grand Bornand, c'est que 48% des nuitées sont réalisées hors saison d'hiver. Quand je suis arrivée, il y a 20 ans, c'était davantage 38-40%. Donc on voit déjà que notre économie touristique, elle repose sur deux saisons, voire parfois l'intersaison, on y reviendra, mais que ce n'est pas exclusivement basé sur l'économie d'hiver. Les prestataires d'activités, un accompagnateur, moniteur, va pouvoir très facilement passer d'une activité à l'autre. Donc déjà, c'est une première agilité. C'est-à-dire qu'on adapte l'offre en fonction des conditions. Ce qui est important, c'est que les vacanciers, les clients, vivent la montagne pleinement et entièrement. On a beaucoup développé tout ce qui est du registre du patrimoine. Patrimoine pourquoi ? Parce qu'ici, au Grand Bornand, on a plus de 450 chalets bicentenaires. Donc ça donne évidemment une esthétique incroyable. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est beaucoup plus poussé aujourd'hui. On développe aussi beaucoup tout ce qui est du registre de l'artistique et du culturel. Sur les aspects patrimoniaux, on vient de le dire, mais il y a plus de 30 ans, le Grand Bornand donc a décidé d'avoir une politique événementielle assez soutenue pour consolider les ailes de saison. Et est né le Festival international au bonheur des mômes. C'est aujourd'hui le premier festival européen de spectacle vivant pour le jeune public. Ce festival, la première chose, c'est qu'il a permis de prolonger la saison touristique estivale, parce qu'il est stratégiquement posé fin août. Mais il y a un héritage aujourd'hui. L'héritage, c'est que, héritage immatériel, beaucoup de jeunes gens du Grand Bornand ont embrassé des vocations artistiques et culturelles. Les exercent ici sur nos territoires, donc enrichissent l'offre de ce qui est possible pour nos clients. Ils ont grandi sur les mêmes bancs d'école qu'un jeune qui est devenu agriculteur aujourd'hui, moniteur de ski ou champion de ski. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi un terreau pour l'expression artistique et culturelle.
Dans 20 ans, dans 30 ans, comment est-ce que vous imaginez la vie si touristique au Grand Bornand ?
Alors, comment je l'imagine, comment je la souhaite, je ne sais pas, mais je pense qu'on aura encore une offre ski. Je pense que peut-être l'offre ski ne sera plus le déclencheur du séjour. Ce sera peut-être une offre parmi d'autres offres d'activités de pleine nature, puisqu'on sait qu'on peut pratiquer, les pratiques se multiplient, qu'elles soient l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Ce qui serait formidable, c'est qu'effectivement, ce qui déclenche un séjour, ce soit l'amour de la montagne. Et finalement, j'ai envie de dire, la montagne, elle est belle les quatre saisons. Je souhaite aussi que demain, on s'appuie toujours sur du tourisme, mais pas que, sur la culture, sur l'art, sur l'agriculture. Culture-agriculture, c'est pas mal quand même. Sur les artisans, et qu'on puisse conserver cette âme de village. Je suis confiante là-dessus, parce qu'on a des jeunes gens ici au Grand Bornand qui ont vraiment envie de perpétuer les traditions, les savoir-faire. Et je crois qu'ils ont surtout envie de les transmettre. Hein. On le voit à travers les fêtes locales. Donc, je suis quand même confiante. Je pense qu'on trouvera les alternatives.
Merci beaucoup.
Et
puis, bonne soirée. Oui, merci bien.
Si les stations de moyenne montagne doivent se réinventer à marche forcée face au changement climatique, les stations d'altitude disposent d'un peu plus de temps pour anticiper. C'est le cas de Tignes, qui bénéficie encore d'un enneigement relativement sécurisé. Malgré tout, pour préparer l'avenir, la station fait un choix singulier. Elle adopte un mode de gestion publique de son domaine skiable.
Clément Collin, depuis 5 ans à Tignes, est président du directoire de la société publique locale Alta, qui a pour vocation de gérer les domaines de montagne de Tignes et de Sainte-Foy-Tarentaise à partir de juin 2026.
Quel est l'intérêt d'avoir une société publique qui s'occupe de cette station ?
Alors le choix à Tignes a été fait par les élus en août 2024 de recourir à une société publique locale pour essayer vraiment d'anticiper les difficultés potentielles sur l'activité ski, qu'ils soient climatiques, sociétaux, géopolitiques, énergétiques. Et du coup, d'avoir un outil qui soit flexible et malléable sur lequel on puisse bouger l'équilibre économique du contrat sans avoir nécessairement besoin de remettre en concurrence et potentiellement d'indemniser le titulaire du contrat de DSP. Le projet, c'est vraiment remettre la vie du village au cœur des réflexions, bien sûr par le maintien du poumon économique qui est le ski aujourd'hui, mais en préparant une diversification, alors une diversification touristique, même si elle est déjà très présente à Tignes, et puis surtout une diversification économique à moyen long terme, si tant est qu'on arrive à trouver des solutions pour le faire.
karting a cette chance de se trouver à plus de 2000 mètres d'altitude et donc de ne pas être la station la plus touchée des Alpes. Pour autant, vous faites le choix d'anticiper. Pourquoi ?
Justement, c'est le moment. Pendant que l'activité est encore bonne, pendant qu'on a des perspectives et qu'on a du temps devant nous, de se poser les bonnes questions, de mettre en place les actions qui permettent de faire gentiment évoluer le modèle sans à-coup et sans brutalité pour que quand les soubresauts arrivent, on est déjà anticipé et on est déjà un coup d'avance. Alors paradoxalement, la première étape, c'est de protéger cette activité ski qui fait vivre le village, la station et plus largement la vallée. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est notre objectif premier. Et progressivement, d'utiliser les revenus du ski en temps 1 pour améliorer la qualité de vie des habitants, hein, en produisant du logement pour les salariés, pour les permanents, en produisant des services de mobilité efficaces, j'ai envie de dire toute l'année, en tout cas on tendra vers cet objectif, voilà, pour que d'abord ce TIN soit un lieu de vie et qu'ensuite ce soit un lieu qui accueille des touristes, d'abord pour le ski et progressivement dans les années qui viennent d'essayer de diversifier l'activité économique pour que le jour, s'il arrive où on a des soucis sur l'activité ski, on en soit un peu moins dépendant. Alors c'est important parce que c'est important d'avoir le temps de le faire sereinement et d'y réfléchir alors qu'on a des perspectives de plutôt longue durée et pas être dans l'urgence et dans la douleur parfois comme ça on peut le voir sur les stations de moyenne montagne. Il y a très 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 peu de stations, voire aucune à mon sens, qui ne se posent pas la question de leur avenir. Donc voilà, il faut que TIN prenne sa part et tout ce qu'on pourra faire de positif, d'efficace, même si chaque territoire est différent, et ben l'idée c'est de le partager avec les autres territoires de montagne, qu'on crée un peu cette boîte à outils collective dans laquelle tout le monde peut piocher pour essayer de trouver les solutions qui lui correspondent.
À Tignes, la neige a blanchi le glacier de la Grande Motte. Un décor immaculé mais néanmoins fragile. Au fil de sa carrière en paraski alpin, Marie Baucher, 8 fois médaillée d'or aux Jeux paralympiques d'hiver, a maintes fois dévalé ses pentes. Elle a aussi observé, saison après saison, le recul du glacier.
Tignes, en fait, de par son glacier, marque quand même une évolution. En fait, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner sur le glacier, donc c'était aux alentours des années 2010, les anciens, entre guillemets, disaient que voilà, eux, ils n'avaient pas besoin d'un fameux télésiège pour remonter au niveau de l'arrivée du funiculaire. Et quand ils me disaient ça, je me disais, ouais, quand même, c'était il y a 10 ans, ça me semblait quand même assez important comme évolution. Et en fait, force est de constater que moi, 15 ans plus tard, je suis témoin du fait qu'ils démontent des téléskis aujourd'hui sur ce fameux glacier. Parce que les pistes du bas sont plus accessibles, parce que la glace a fondu, parce que le glacier a reculé. Et donc sur une quinzaine d'années, on voit clairement les effets du réchauffement climatique.
Tignes parle de plus en plus de transition, de diversification, justement pour ces raisons-là. En tant que sportif de haut niveau, quel regard est-ce que vous portez sur cette mutation ?
En fait, en tant que sportive de haut niveau, c'est compliqué parce que j'étais à la fois donc spectatrice et à la fois j'en étais actrice, et donc c'était une situation qui était quand même assez particulière parce que on voyait ces évolutions, mais c'était difficile de prendre la parole sur ces sujets-là parce que en fait, on faisait partie du système qui est appelé aujourd'hui à transitionner parce que en fait, et c'est là où du coup je prends plutôt ma casquette de personne qui habite un territoire de montagne. On voit la fragilité de nos territoires et particulièrement sur les questions du changement climatique. En fait, on sait, hein, aujourd'hui, c'est chiffré, les données sont là. Et donc, effectivement, si on veut continuer à vivre ici correctement, il y a forcément ces questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Il y a forcément des réactions à avoir. Ouais.
Justement, pour respecter ce territoire, quelle trajectoire est-ce que le ski de haut niveau doit prendre ?
Je pense qu'il faut qu'on fasse en fait ce qu'ont toujours fait les personnes qui habitent en montagne, c'est en fait qu'on s'adapte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs et en fait, on adaptait nos vies à l'évolution des saisons. On n'avait pas, par exemple, une date où on montait en alpage. En fait, la date de la montée d'alpage était décidée en fonction de la date de la fonte des neiges. Et donc voilà, en fait, on était vachement attentif en fait à ce qui se passait sur ces territoires-là, et en fait notre vie s'adaptait à la nature et pas à l'inverse. Et ça, je pense que c'est un premier point, c'est de prendre conscience qu'en fait nos saisons évoluent, et donc c'est comment est-ce que du coup on s'adapte nous à ça, et pas comment est-ce qu'on adapte nos saisons à ces évolutions-là. On retrouve ce contact à la nature que des fois on a un petit peu perdu, je pense, d'une façon générale dans nos sociétés, mais peut-être aussi dans notre façon de pratiquer la montagne. Et donc par rapport au sport de haut niveau, au ski de haut niveau, je pense qu'on s'est retrouvé un petit peu contraint aussi par des calendriers internationaux. On se retrouve un peu contraint par des impositions peut-être médiatiques, peut-être économiques aussi, qui font que en fait on a du mal à adapter et à faire en sorte que ce soit les pratiquants et le calendrier qui s'adapte aux saisons et non pas l'inverse. Et donc je pense que ça c'est un premier point en tout cas. Dire qu'en fait, aujourd'hui, on commence la saison de plus en plus tôt sur les compétitions, alors que finalement, les hivers arrivent de plus en plus tard. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui est plus forcément logique. Et donc, je pense qu'en fait, il faut qu'on recentre, en fait, la nature au cœur de nos décisions et qu'en fait, on retrouve ce contact-là et qu'on réfléchisse comme, en fait, nos aïeuls le faisaient sur notamment l'agriculture, où, en fait, c'était la nature qui guidait un petit peu nos actions.
Que dire, que transmettre aujourd'hui à des jeunes qui veulent découvrir les sports de montagne, est-ce qu'il faut leur dire de pas forcément aller vers le ski alpin et découvrir d'autres pratiques? Qu'est-ce qu'il faut leur dire?
Je pense que c'est quand même difficile de pas dire, et encore plus quand on est une ancienne athlète de ski alpin, de dire faut pas venir au ski alpin, parce que en fait c'est aussi une porte d'entrée. Mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui il faut qu'en fait on s'en serve comme un outil pour pouvoir toucher plus de monde. Enfin, moi je pense que par exemple aux classes de neige, aujourd'hui, on voit que quand même le nombre de personnes qui sont accueillies en classe de neige, le nombre d'enfants se diminue, alors qu'en fait, c'est à la fois des moments où ils viennent apprendre le ski, mais surtout, c'est des classes de découverte hyper riches, et donc ça, c'est hyper important. Donc effectivement, ils vont avoir ce projet de ski alpin dans leur classe de neige, mais les après-midi, ils vont faire d'autres activités, ils vont aller à la rencontre de personnes qui travaillent en agriculture, qui vont découvrir la nature, peut-être avec un guide, un accompagnateur de moyenne montagne. Ils vont se rendre compte qu'il y a des animaux qui habitent les forêts, ils vont voir leurs traces. Enfin voilà, c'est des moments qui sont hyper importants. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans notre façon de raisonner, dans la transition qu'il faut qu'on enclenche, il faut qu'on voit le ski alpin comme un outil de faire mieux et de mieux partager nos territoires, et en tout cas de mieux éduquer les personnes qui viennent ici aussi et les inciter à ne plus la consommer, mais aussi à apprendre à la respecter.
Et l'urgence pour les territoires de montagne se fait toujours plus pressante, puisque, selon les projections scientifiques, chaque degré supplémentaire de réchauffement mondial pourrait leur retirer jusqu'à un mois de neige naturelle par hiver.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.
Les Alpes anticipent la fin de l'or blanc, un reportage d'Azaïs Perronin avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invité de ce grand reportage est Maël Besson, expert en transition écologique du sport, en direct de Chambéry. Alors nous parlons des Alpes, dont la situation est moins préoccupante que celle des Pyrénées par exemple, mais les stations et les clubs de sport ont-ils vraiment le temps de se poser et de voir venir? Quel est le degré d'urgence?
Alors, le degré d'urgence, il est assez important. En fait, il faut bien avoir en tête plusieurs points. Le premier, c'est que la France est une région du monde qui se réchauffe plus vite que la moyenne. Quand on parle à un monde à plus de degrés, ça veut dire déjà une France à plus 2,7 degrés. Et en fait, les Alpes se réchauffent encore plus vite que la moyenne métropolitaine. Le deuxième point, c'est que ces moyennes, elles donnent l'impression que la baisse du taux d'enneigement, l'augmentation des températures et tout ça, ça va être des choses qui sont linéaires. Et en fait, ça va pas être le cas. C'est-à-dire qu'on va avoir des amplitudes de plus en plus fortes. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des années où la neige sera relativement correcte. Et puis, des années qui peuvent être avec un taux d'enneigement très très faible. Et il va falloir, au-delà de s'adapter à la moyenne, être capable d'encaisser une ou deux années avec un taux d'enneigement très très faible. Et puis l'année d'après, il y aura à nouveau un taux d'enneigement relativement acceptable. Mais voilà, il va y avoir des effets comme ça. Et donc, dès l'année prochaine, on pourrait avoir une année assez problématique en termes d'activité, de trésorerie pour les entreprises et tout ça. Donc c'est pas forcément très loin les moments ou les périodes où on va avoir des manques de neige. Et puis après, il y a un petit point de vigilance que moi j'ai envie d'apporter. Il ne faudrait pas qu'on mette toutes nos actions et nos moyens uniquement dans l'adaptation et pas aussi dans l'atténuation, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que le risque, c'est qu'on subisse des conséquences du changement climatique encore plus graves et que finalement le sport, les activités comme le ski et tout ça soient plus trop prioritaire si on a des conséquences du changement climatique trop importantes, si on a des problématiques de ressources en eau potable. Et on l'a vu pendant le Covid, dans ces moments de crise très forte, le sport peut vite être dépriorisé.
Alors on vient d'entendre justement les acteurs d'un secteur en quête de solutions. Ils sont loin d'ailleurs d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous qui les accompagnez justement dans leurs réflexions, j'aimerais que vous nous disiez quelles pistes vous semblent les plus intéressantes. Alors d'abord, dans quelle mesure est-ce qu'on peut miser sur la technologie pour prolonger les activités de glisse? Vous évoquiez l'importance de l'atténuation justement. Donc des investissements, c'est peut-être bien, mais si c'est pour émettre des gaz à effet de serre, c'est pas forcément une bonne idée. Qu'est-ce que la technologie peut éventuellement apporter ?
Vous avez tout à fait raison. Il faut à tout prix éviter ce qu'on appelle la maladaptation, c'est-à-dire des solutions pour s'adapter au changement climatique, mais qui amplifient le problème parce qu'ils émettent des émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Les solutions technologiques, il y en a des très bonnes. La performance énergétique des bâtiments, c'est une solution technologique contre les canicules, qui est une bonne solution. Et voilà, il y a des solutions d'adaptation technologique. Après, il y a les solutions, et certains en ont parlé, d'évolution organisationnel, déplacer des dates de championnat, de réorganiser l'activité d'une manière différente. Ça peut être aussi, et on a des disciplines, alors je pense à celle du kayak, au canoë-kayak, où en fait on a déjà des évolutions du calendrier parce que l'été, il y a moins en moins de moments où il y a la possibilité de pratiquer. Et donc, naturellement, les calendriers, les compétitions sont décalées à d'autres périodes. Il y a aussi, dans le sud de la France, on sait que les risques d'incendie sont de plus en plus fréquents. Et quand il y a un risque d'incendie, on interdit l'accès aux sites boisés, aux massifs et aux sites boisés. Donc, finalement, il n'y a plus de compétition de trail, de VTT, d'escalade dans le sud de la France en été. Parce que pas possible. Donc il y a toutes ces solutions d'adaptation organisationnelle. Il y a des solutions aussi basées sur la nature. Là, je suis à Chambéry. La végétalisation des espaces publics, ça participe à la résilience des villes. Chambéry est en train de planter pas mal d'arbres. Là, je trouve ça intéressant. Et puis, il y a l'adaptation aussi culturelle d'évolution de nos normes, finalement, nos disciplines. Ce qu'on vient chercher, c'est souvent la cohésion avec ses collègues, les sensations, les émotions. Et des fois, on peut passer d'une discipline à l'autre. Moi, je pense souvent à la voile. Quand il n'y a pas de vent, c'est culturellement accepté qu'on va faire du renforcement musculaire, on va faire de la tactique, on va faire de la réparation. Donc, je pense qu'il faut développer cette culture-là. Les clubs de ski l'ont, le club de ski de Chambéry, clairement, quand il n'y a pas de neige hors saison, en fait, ils font de l'athlétisme, ils font du renforcement, les jeunes. Donc il y a cette évolution culturelle aussi, cette adaptation culturelle, l'acceptation et le renoncement de certaines accessibilités en continu de l'activité.
Oui. Vous parlez donc d'activités plus variées tout au long de l'année. Pour les amoureux vraiment du ski, dans quel type d'activité est-ce qu'ils peuvent se retrouver avec les mêmes sensations ?
Par exemple, le VTT, en termes de trajectoire, d'engagement et tout ça, peut apporter pas mal de choses aux skieurs lors de leur entraînement. Ça, je trouve ça intéressant. Le biathlon, on a des compétitions qui sont sur ski roue. Je trouve ça intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer d'avoir des activités qui se font en ville. Il y a des choses même assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on a des attachements culturels à des choses. Il y a une bonne partie des compétitions internationales de cascade de glace, vous voyez, l'escalade sur avec des piolets, qui se font en fond de vallée où il fait froid. Mais elles se font pour être sûr d'avoir de la glace, sur du bois. Donc, objectivement, on pourrait les organiser sur la plage de Nice ou sur le Trocadéro, en termes de visibilité, et de ça pourrait être plus intéressant qu'en fond de vallée où il fait très froid et finalement, personne ne vient les voir parce que ça caille trop. Donc, et on voit qu'on continue à les organiser, même si c'est sur du bois, et que finalement, il n'y a pas forcément besoin du froid pour ça. Donc, on a des attachements culturels comme ça, il faut arriver à avoir des redirections mais on va peut-être parler sur les jeux. Les jeux, c'est
alors,
exactement...
Alors attendez, parce qu'on va bien sûr venir aux jeux, mais il y a quand même ceux qui sont très attachés à la neige. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller toujours plus haut, justement, d'aller la chercher, la neige, là où elle est encore, de rallonger les remontées mécaniques, par exemple?
Ce qui est sûr, et je partage l'avis de Romain, c'est que le ski va pas disparaître du jour au lendemain. On va continuer à avoir de la pratique du ski et la pratique va remonter en altitude. Mais on va avoir un enjeu de partage de la rareté, parce que finalement, on va avoir moins de stations avec une période moins étendue. Donc, on a un vrai sujet de comment on partage cette rareté. Et ça pose des questions Oui, pas mal de questions de comment on gère ça. Est-ce que ça devient un sport privilégié? Est-ce qu'on reste sur quelque chose qui est accessible? Est-ce qu'il y a une solidarité qui se met en place entre les clubs de basse et moyenne altitude et les clubs en haute altitude, avec des pour imaginer des jumelages, donc voilà. Moi, je pense que le ski ne va pas disparaître. Il y a encore de belles choses à faire dans le ski. Par contre, effectivement, on ne pourra pas en faire autant et autant de monde. Donc, il y a un vrai sujet de partage d'accessibilité.
Et ce qu'on a entendu, c'est qu'on n'a trouvé aucune alternative aussi rémunératrice. Donc, il faut peut-être se préparer aussi à des renoncements.
Ah oui, alors ça, c'est sûr que pour le moment, on n'a pas trouvé de modèle qui rapporte autant que le modèle du ski. Après, je pense que les territoires de montagne bénéficient aussi de ce qu'on commence à appeler le tourisme de fraîcheur, en tout cas l'envie, dans des moments de forte chaleur, en tout cas les périodes estivales, de venir s'abriter des fortes températures. Donc je pense qu'il va y avoir un glissement, mais c'est sûr que ça risque de ne pas compenser le chiffre d'affaires de l'or blanc.
Vous vouliez parler des jeux. Vous avez entendu Fiona Mill, la présidente de Mountain Wilderness France, au sujet des JO de 2030. Pour elle, ces jeux représentent plutôt un frein à la nécessaire transition de ces territoires de montagne. Est-ce que vous êtes plus optimiste qu'elle?
Ce qui est intéressant avec les jeux, c'est que c'est au service d'un projet de territoire. Donc ça oblige à se projeter de qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire. Beaucoup prennent en exemple Albertville et l'héritage d'Albertville. En gros, le principal héritage, c'est les infrastructures routières. Et on est 30 ans après, on continue à bénéficier de cet héritage-là. Donc les jeux de 2030, il faut pas les réfléchir au regard des besoins de 2030. Enfin, pas uniquement, mais de 2060, de 2040, 50, 60, 30 ans après.
Mais c'est très difficile, en fait, de se projeter à cette échéance.
C'est l'exercice sur tous les jeux. Et quand moi, j'étais au ministère des Sports et que je travaillais sur le principe même, le compte de Paris 2024 et la stratégie d'excellence environnementale, c'est la question qui s'est posée. C'est-à-dire, comment on imagine des jeux qui rentrent dans les limites planétaires et au service de quel projet de société et de vers quoi il faut aller. C'est tout l'objet. On fait pas des jeux pour faire des jeux. On fait des jeux pour un projet de société.
Et alors, le CIO impose un certain nombre d'exigences. Il y a un cahier des charges qui est très cadré. On arrive à y introduire un petit peu de souplesse, justement, pour pouvoir faire de ce projet de jeu un projet au service des territoires.
Ben, c'est un élément clé. En tout cas, on ne pourra pas le faire sans les fédérations internationales, sans le CIO qui émette un cahier des charges. En fait, sans toutes les parties prenantes. C'est ce qu'on a mis en place à Chamonix, sur un événement qu'on appelait le Cham Sport Lab, où on a réuni les fédés internationales de ski, la fédé nationale de ski, le CIO, les différents organisateurs d'événements, pour travailler sur cette vision commune. Souvent, on tape sur le comité d'organisation, que ce soit des Jeux ou d'un autre événement, mais en fait, il a un périmètre de responsabilité restreint. Il doit répondre à un cahier des charges du CIO, mais aussi des diffuseurs, aussi des sponsors qui ont aussi leurs exigences. Et finalement, la marge de la marge de manœuvre, elle est un peu réduite, quoi. Donc, vous avez raison, ça ne passera que par une volonté collective de faire évoluer le modèle. Mais si on regarde bien, en fait, les jeux ont toujours évolué. Et les sports, d'ailleurs, aussi, ont toujours évolué. Les jeux de 92 ne ressemblent pas aux jeux d'aujourd'hui. Et les jeux en 2030, ils ne doivent pas ressembler aux jeux d'hier.
Alors, justement, à quoi est-ce qu'ils devraient ressembler ces JO d'avenir, selon vous ?
Ben, moi, je pense qu'il y a un coup à jouer sur cette idée que les jeux d'hiver peuvent nous aider à nous réduire notre dépendance à la neige. Ça ne veut pas dire ne plus utiliser la neige, mais réduire notre dépendance à la neige. Et j'aime bien l'idée d'avoir des jeux de montagne, dans lesquels, évidemment, les sports d'hiver ont toute leur place, mais qui promeut une montagne et des sports qui peuvent se pratiquer toute l'année.
Alors concrètement, c'est quoi des jeux de montagne ?
Ben, c'est des jeux, en fait, si on prend... Enfin, pourquoi on aime les jeux ? Il y a un engouement. C'est pas spécialement pour l'amour de curling. J'ai de la sympathie pour cette discipline, mais c'est pas. Les gens sont pas fans de curling. Et on ne regarde pas pour cette discipline-là. On regarde parce que ça nous procure des émotions, parce que on a un sentiment de fierté. Il y a une communion. Il y a beaucoup d'émotions. Et finalement, il y a plein de manières de répondre à ce besoin-là. À ces besoins-là de communion, d'émotion et tout ça. Et on n'est pas obligé de passer uniquement par certaines disciplines. On peut imaginer avoir des jeux où, en fait, on a en basse altitude du VTT, du cross-country ou du trail, en haute altitude du ski, du snowboard et tout ça. Et en fait, d'avoir une représentation plus complète de tout ce qui se fait en montagne, et qui, du coup, promeut de manière plus globale la montagne quatre saisons.
Et les athlètes sont engagés, justement, pour faire bouger les choses dans ce sens-là ?
Alors oui, il y a de plus en plus athlètes et de plus en plus d'athlètes qui sont sensibles et même, j'allais dire, qui vivent le sujet pas très bien. Les athlètes, clairement, c'est des passionnés hein, pour leur discipline. Ils se sont toujours investis et tout ça. Et c'est pas évident quand on s'investit 15 ans, 20 ans dans une discipline. Et que du jour au lendemain, on nous dit que en fait c'est une impasse, c'est un peu violent psychologiquement. Donc il y a pas mal d'athlètes qui sont dans une sorte de contradiction, et il y a de plus en plus d'athlètes qui ont envie de faire évoluer. Et sur les derniers championnats du monde 2023 à Méribel Courchevel, en fait il y a eu 400 athlètes qui ont demandé à la FIS, dans la Fédération internationale de ski, d'avancer sur ces sujets-là. Pour mieux prendre en compte les enjeux climatiques, les réductions de l'empreinte carbone et les questions d'adaptation.
Merci Maël Besson et merci à l'équipe d'ICI Pays de Savoie pour son accueil. Le grand reportage de cette semaine, Les Alpes anticipent la fin de l'or blanc, était signé Azaïs Perronin, réalisation Alison Vicrobeck, à la technique Julien Pichon-Martin à Chambéry, Olivier Arnet à Paris, au web Caroline Beneteau, documentation Sophie Cheblin, Christine Anzano et Véronique Le Faller. Vous pouvez retrouver cette émission de la rédaction sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.